Psaume 73, donc je lirai. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu as anéanti tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Un psaume donc qui a été écrit par un certain Azaph. Qui était Azaph? Eh bien, c'était le chef des chantres qui dirigeait la louange, le chef que David avait désigné pour diriger la louange dans le temple. Un homme donc de Dieu. Un homme de Dieu qui louait Dieu à longueur de journée. Et pourtant, eh bien voilà que cet homme de Dieu, il passe par ce qu'un commentateur comme Gilles Georgel, qui a écrit des commentaires sur les psaumes, il passe par une crise de foi. Il a une crise de foi. Foi, F-O-I. Comme quoi les hommes et les femmes de Dieu peuvent aussi être éprouvés dans leur foi. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus de problème, bien sûr. Vous serez d'accord, je crois. Quel est le problème rencontré par Azaph? Eh bien, c'est qu'il regarde autour de lui. Il est dans un monde déchu, il voit les méchants réussir. Et lui, un homme de Dieu, consacré, il se sent frappé, découragé. Alors, il passe par toutes sortes de sentiments, des émotions. Il passe par la jalousie, verset 3, « car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. » Il passe par la douleur, verset 16, « quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, la difficulté. » Et aussi le verset 21, « lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, il avait mal. » Il est passé par l'amertume, verset 21, « lorsque mon cœur s'aigrissait. » Alors, eh bien, le psalmiste, il se pose cette question, qui est sous-jacente. Dieu est-il injuste? Et on s'est tous posé cette question au moins une fois, n'est-ce pas? Dieu est-il injuste? Alors Azaph, il n'est pas allé jusqu'à accuser Dieu. Mais il s'en est fallu de peu qu'il lâche Dieu et la foi. Il s'en est fallu de peu. Et alors, il met d'entrée les pendules à l'heure. Parce qu'au moment où il écrit le psaume, il va beaucoup mieux, Azaph. Et regardez comment il commence son psaume, verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il commence son psaume par cette affirmation, Dieu est bon, avant tout ce qui suit. Donc Azaph écrit son psaume lorsqu'il va beaucoup mieux. Et donc il se voit comment il était pendant sa crise de foi. et comment Dieu l'a ensuite éclairé. Il se voit, et c'est bon pour nous aussi de nous voir dans les bons et dans les mauvais moments. Et d'ailleurs, dans les mauvais moments, lorsqu'on passe par des creux de la vague, lorsqu'on n'est pas bien, lorsque le moral est au plus bas, et ça arrive aussi aux chrétiens, n'est-ce pas? Eh bien, rappelons-nous les moments heureux que Dieu nous a donnés par la foi et qui ne sont certes pas terminés. Rappelons-nous ces moments heureux. C'est comme des nuages. Les nuages, ils passent. Et ensuite, tout va bien. Rappelons-nous donc comment ça allait bien par la grâce de Dieu. Dans ce psaume, le psalmiste décrit comment il est passé d'un état qu'on pourrait vraiment appeler de dépressif, hein, à un état d'espérance et de confiance retrouvée dans le vrai Dieu. Et donc ce passage nous apprend que, et ça sera ma vérité centrale, tourner nos regards vers Dieu corrige notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Tourner nos regards vers Dieu corrige notre regard sur nous-mêmes et sur les autres, et aussi sur Dieu. Alors, ça sera ma vérité centrale. Ce psaume, clairement, il y a deux parties dans ce psaume. Et je vais donc, ça sera mes deux points. Premièrement, nous verrons une vision sombre, désespérante et déformée de la réalité terrestre. Deuxièmement, nous verrons une vision juste cette fois, de la réalité éclairée par Dieu lui-même, à la lumière de Dieu lui-même. Ce psaume, clairement, on va voir où est-ce que la deuxième partie commence. Donc, premièrement, voyons une vision sombre, désespérante et déformée de la réalité terrestre. Est-ce que vous avez remarqué, quand les choses ne vont pas comme on veut, laissez. Eh bien, on a tendance à voir tout en sombre. Rien ne va. On se dit, plus rien ne va. Et on oublie de voir ce qui va encore, parce qu'il y a des choses qui vont encore bien. Et Asaph, eh bien, c'est ce qu'il vivait. Regardez comment sa vision de la réalité, elle était déformée par les expressions extrêmes qu'il utilise en ce qui concerne les méchants et en ce qui concerne le juste. En ce qui concerne les méchants, qu'est-ce qu'il dit? Verset 4, « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. » Verset 5, « Les méchants, ils n'ont aucune part à la peine des hommes. » Ils ne sont pas frappés avec les humains, verset 5. Verset 12, ils sont toujours tranquilles. Et en ce qui concerne le juste, verset 14, il parle de lui et du juste. Tout le jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Il a oublié. Il a oublié les bons moments avec Dieu. Est-ce que c'est la réalité? Bien sûr que non. Est-ce qu'un méchant n'est jamais tourmenté? Est-ce qu'un méchant n'est jamais puni? Bien sûr que non. Est-ce qu'un méchant n'a pas de conscience? Bien sûr que non, il a une conscience. Est-ce qu'un juste est frappé tout le temps? Bien sûr que non, on peut en témoigner, n'est-ce pas? Nous avons des hauts et nous avons des bas et nous avons des hauts. Le juste connaît bien sûr des moments de joie. Et certainement que Asaph, qui était le chef des chantres, il a certainement éprouvé beaucoup de joie à diriger la louange, à louer lui-même Dieu. Il a connu ces moments de joie. Il était établi pour cela dans le temple. Certainement qu'il a connu ses moments de joie, mais il ne les voyait plus. En tout cas, il les avait oubliés pour un temps. Alors, qu'est-ce que nous apprenons là? Eh bien, nous avons des sentiments, nous avons des émotions. Ne nous fions pas toujours à nos émotions parce qu'elles sont trompeuses. Pourquoi? Parce que nos émotions, nos sentiments se basent sur ce que nous voyons. La foi, c'est sur ce que nous ne voyons pas. Notre vision de la réalité, elle peut être assombrie. Elle peut être déformée par des sentiments négatifs. Quand on ne va pas bien, tout est sombre autour de nous, même les choses qui vont bien. Pourquoi, au final? Parce qu'au bout du compte, eh bien, non seulement Asaph ne voyait pas de récompense à sa vie droite et consacrée. Il était consacré à Dieu, il attendait un retour en cela. Mais en plus, Asaph, lui injuste, c'est lui qui est frappé tout le jour, il le dit. Il part même de son châtiment quotidien chaque matin, verset 14, alors que rien n'arrive aux méchants, dit-il. Alors, son raisonnement, on peut le comprendre comme cela. Les méchants qui persistent dans leur mauvaise voie méritent d'être punis sur le champ et tout de suite. Pourquoi Dieu les laisse-t-il faire? On peut vraiment se poser ces questions de nos jours, n'est-ce pas? Quand on voit le mal qui progresse. Pourquoi Dieu le laisse-t-il faire? On peut se poser la question aujourd'hui, pourquoi Dieu n'intervient-il pas pour arrêter ce réchauffement climatique avec toutes ces canicules? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas pour arrêter telle tuerie faite par un mineur? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas pour arrêter les narcotrafiquants qui font tellement de dégâts? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas pour plus de justice entre les riches et les pauvres, alors que le fossé se creuse de plus en plus, les très riches et les très pauvres? Ça, c'était le raisonnement d'Azaph, et parfois, n'est-ce pas, ça peut être le nôtre aussi. Mais, peut-être diront certains, moi je fais le bien, moi je m'éloigne du mal, donc Dieu me doit des bénédictions ici et maintenant, immédiatement. Le mal ne devrait jamais m'atteindre, sinon ce n'est pas juste. Et si on raisonne comme cela, eh bien, nous devons faire attention parce que ça veut dire que nous fonctionnons sur la base de nos mérites. Sur la base de nos mérites, de nos œuvres. Et on oublie quoi? On oublie la grâce de Dieu qui ne nous doit à rien. Qui ne nous doit rien, mais qui nous donne avec grâce, indépendamment de nos mérites. On ne marchande pas avec Dieu. Et on n'a pas besoin parce que Dieu nous donne avant qu'on ait mérité quoi que ce soit. Si on fonctionne sur la base de nos mérites, eh bien ça va entraîner des mauvaises pensées. Si on fonctionne sur la base de nos bonnes œuvres, c'est très bien de faire du bien, mais ça va entraîner dans notre cœur un mauvais état. Ça va entraîner quoi? Ça va entraîner des mauvaises pensées comme l'orgueil. Moi, je suis meilleur que lui ou qu'elle, je fais plus de choses que lui ou qu'elle. Ça va entraîner la jalousie. Ah, lui, il fait mieux que moi, elle fait mieux que moi. On va se comparer aux autres. Et si on n'a pas ce qu'on croit mériter, à plus ou moins long terme, eh bien, la tentation est grande de devenir amer, de devenir frustré, et même d'en vouloir à Dieu, voire même de tout laisser tomber. Et donc, si Dieu ne répond pas à mes attentes, où est-ce que je vais? Me tourner vers les hommes. Mais Jérémie 17, verset 5 nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend le cher pour son appui. » Et le verset 7 du même Jérémie 17 « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Alors on peut analyser dans quel cas eh bien, un croyant peut se sentir frustré. Dans quel cas un croyant peut-il se sentir frustré, déçu? Et je crois qu'on peut vraiment tirer une vérité, c'est qu'on peut se sentir frustré toujours lorsque l'évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés, n'est plus au centre de notre vie. Lorsque Jésus n'est plus au centre. C'est là que les problèmes commencent à arriver, que notre cœur ne va pas. Et on peut lister certaines situations où l'évangile n'est plus au centre. Certains comme Azaph, en tout cas au début, ils voient prospérer les méchants et ils ont soif de justice, et c'est très bien. Mais ils sont tellement focalisés sur le mal extérieur qu'ils en oublient leur propre cœur, leur propre besoin de pardon, leur propre péché, leur propre premier besoin d'être pardonné de leur péché. Et ils oublient l'évangile. Ils oublient leur premier amour. D'autres pensent que Dieu et les autres ne les accepteront pas s'ils n'observent pas scrupuleusement toute une série de lois, pensant que Dieu les guette au moindre faux pas pour les accuser. Mais non, Dieu n'est pas comme ça. Et donc ils oublient l'évangile, ils oublient la grâce de Dieu en Jésus-Christ. D'autres connaissent leur Bible sur le bout des doigts et ils se glorifient de leur connaissance. Ils sont les premiers à répondre parfaitement si vous leur donnez un quiz biblique, ils connaissent très bien. C'est très bien de toujours chercher à mieux connaître la parole de Dieu, la Bible. Mais cette connaissance ne suffit pas pour les sauver s'ils ne sont pas nés de nouveau par la repentance et par la foi. La connaissance ne sauve pas. D'autres ont soif d'émotions fortes, d'expériences dans les églises. Et ils réduisent l'évangile à une série d'expériences émotionnelles ou mystiques. Certains font des rêves, d'autres ont... Et ça leur est peut-être arrivé, oui, d'avoir fait une expérience surnaturelle, ça peut arriver. Mais ils en ont fait, ils se disent que s'ils ne font pas telle ou telle expérience, ou si les autres ne le font pas, eh bien, ils se disent qu'il leur manque quelque chose. Et donc, elles se découragent lorsqu'elles ne ressentent rien. Le salut par la grâce ne leur suffit pas ou ne leur suffit plus. Ils ont soif d'expérience. D'autres encore, eh bien, aspirent à un mieux-être et réduisent Jésus, on peut dire, à un distributeur automatique de bénédictions. Ils réduisent Jésus à quelqu'un qui doit répondre immédiatement à tous leurs désirs, je dis bien désirs, au lieu de le considérer comme leur sauveur et leur seigneur. Qu'il est bon de suivre, qu'il faut suivre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Si leurs désirs ne sont pas comblés, eh bien, ils vont chercher ailleurs. Alors que Dieu veut nous combler. Alors que Dieu veut nous combler. Non pas combler tous nos désirs, mais déjà combler nos besoins, dont le premier est d'être pardonné de nos péchés. Et oui, il nous donnera aussi, parfois, selon sa volonté, ce que nous aspirons, si notre cœur s'aligne sur le sien. Alors, on peut se poser la question, qui est-ce qui siège sur le trône de ma vie? Le trône, sur mon cœur. Est-ce que c'est le Seigneur Jésus? Si je l'appelle Seigneur, c'est lui le roi. Que ton règne vienne, Seigneur, déjà sur mon cœur. Ou est-ce que c'est mon moi qui siège sur le trône de ma vie? Est-ce que c'est mon moi que je cherche à servir en premier, à assouvir tous mes désirs? Encore, d'autres encore peuvent être frustrées parce qu'elles vont faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais c'est plus par formalisme religieux, plus par soif de reconnaissance, ou pour se sentir accepté de Dieu et des autres. À tel point que s'ils ne voient pas le fruit de leur travail, ça ne va plus, parce que leur travail est devenu leur identité. Et inversement, s'il y a beaucoup de fruits à leur travail, la tentation est grande de s'attribuer les mérites de ces fruits, alors que c'est Dieu qui donne les fruits. Et nous sommes tous, je crois en tout cas, attention à ces tentations parce qu'elles sont tellement, tellement proches. Le fruit, c'est Dieu qui le donne, n'est-ce pas? Et donc, ils ont surtout oublié l'évangile, la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Jésus nous a acceptés avant, nous a accueillis avant que nous ayons fait quoi que ce soit pour lui. Lorsque nous sommes allés vers lui, nous n'avions aucun mérite et il nous a accueillis tels que nous sommes et il continue de le faire. Alors attention à ne pas fonctionner sur la base de nos mérites. Parce que si on fonctionne sur la base de nos mérites et de nos œuvres, eh bien ça peut entraîner non seulement des frustrations, mais ça peut aussi entraîner des tentations, comme pour Asaph. Asaph, il a été tenté de tout lâcher, de lâcher Dieu. La tentation était grande pour lui de ressembler aux méchants, qu'il enviait, il enviait les méchants, parce que rien ne semblait les atteindre en apparence. Et il réalise qu'il s'en est fallu de peu, d'un rien verset 2, pour qu'il succombe à la tentation de perdre sa foi. Mais Dieu est fidèle. Et je relis ce verset qui est tellement bon à se rappeler quand nous sommes tentés, quand ça ne va pas. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Voilà une promesse du Seigneur quand ça ne va pas, à nous approprier. Asaph, quand il a considéré les méchants, il a quand même réfléchi, il s'est rendu compte que ressembler aux méchants, ça consisterait à être quoi? À être violent, à être orgueilleux comme eux, verset 6. Ça consisterait à parler comme eux, verset 15. Et aussi le verset 8 que je vous relis, les méchants, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. C'est une tentation, n'est-ce pas? Une glissade qui peut être facile. Qui d'entre nous ne s'est pas laissé aller à rendre la pareille à quelqu'un qui vous a humilié, quelqu'un qui vous insulte, quelqu'un qui vous fait une queue de poisson en voiture? En voiture, là, c'est plus discret. Sauf si les deux voitures se retrouvent à l'église. Ça peut arriver aussi. Qui d'entre nous ne s'est pas laissé aller à rendre l'appareil parce que beaucoup pensent que les chrétiens ce sont des mous, on peut faire de ce qu'on veut, on peut leur marcher dessus. Qui n'a jamais été tenté de rendre le mal pour le mal? Alors peut-être que certains vont dire, moi je suis chrétien et je n'éprouve jamais de tels sentiments. Asaph les a connus. Asaph, un homme de Dieu. Il était un homme de Dieu qui louait Dieu toute la journée et il a connu de tels sentiments. Il a connu. Et il est vrai, il est authentique avec son Seigneur et qu'il ne peut rien cacher. Quelle est la différence entre un croyant et un non-croyant ? C'est pas que le croyant il est devenu parfait, il a toujours des bonnes pensées. C'est que le croyant, lui, il est conscient quand il lui arrive une mauvaise pensée. Le non-croyant, il n'en est pas conscient. Il n'est pas, il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. C'est pas que le croyant n'éprouve jamais de jalousie, ni d'amertume, ni le désir de se venger. Qui n'a pas éprouvé ce genre de pensée, si on est honnête avec soi-même ? Non, la différence, c'est que le croyant, lui, il est conscient que ses pensées sont mauvaises par la grâce de Dieu qui lui fait prendre conscience. C'est ce qu'a fait Dieu avec Asaph. Le non-croyant, il n'éprouve aucune honte quand il a des mauvaises pensées et il n'a même pas conscience qu'elles sont mauvaises. Alors, quand nous avons conscience que nous traversons une mauvaise passe, que nous avons vraiment des mauvaises pensées dans notre cœur, c'est bon signe. C'est que Dieu, dans sa grâce, nous parle dans notre cœur. Pourquoi ? Pas pour qu'on garde ces mauvaises pensées pour nous, mais pour nous en libérer. Qu'est-ce que nous faisons ? Que faire lorsque nous avons identifié des mauvaises pensées en nous ? Amertume, jalousie, envie. Que faire ? Est-ce qu'il faut les refouler ? Un bon chrétien n'éprouve pas ce genre de choses. Ce n'est pas ce qu'a fait Asaph. Il n'a pas repoussé, il n'a pas refoulé ses mauvaises pensées. Est-ce qu'il faut nourrir au contraire ces mauvaises pensées et les ressasser continuellement en se laissant ronger par elles ? En répétant sans cesse, ce n'est pas juste. Asaph, il avait commencé à raisonner comme ça, c'est pas juste. Mais il s'est vite arrêté. Qu'est-ce qu'a fait Asaph que nous pouvons imiter, lui, l'homme de Dieu ? Eh bien, regardez ce qu'il dit au verset 16, il a réfléchi. Il a réfléchi pour comprendre cela, verset 16. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a identifié ses mauvaises pensées ? Eh bien, il les a accueillies. Il n'était pas dans le déni, il les a accueillis, il les a reconnus honnêtement, ses mauvaises pensées, et il a dit stop, il s'est arrêté pour réfléchir. Dans la douleur, la difficulté fut grande, il dit. Et ça nous fait penser au fils prodigue, vous savez, le fils prodigue, oui, en Luc 15, eh bien, lui aussi, il s'était arrêté, il a réfléchi, il est rentré en lui-même, nous dit le texte. Luc 15, hein, si vous voulez relire l'histoire. Il a réfléchi, Asaph. Et la seule pensée d'agir ou de parler comme les orgueilleux a suffi à rendre Asaph honteux et à l'arrêter. Stop. Non, un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça, ni ne parle comme ça. Voici ce qu'il dit au verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, donc comme les méchants, voici, je trahirais la race de tes enfants. Ça serait contre nature. Et alors, on pourrait résumer la réflexion d'Asaph ainsi. Dans son cheminement, dans sa pensée, on pourrait la résumer ainsi. Mais qu'est-ce que je perds mon temps à focaliser sur les méchants au lieu de focaliser sur mon péché ? C'est pas ça qu'il fait, même si effectivement nous devons nous examiner. Non, la première chose qu'il fait, c'est de focaliser sur Dieu et d'aller à lui. C'est la première chose qu'il fait. Et alors, à partir de là, il y a un changement. Asaph ne s'est pas arrêté à réfléchir. Non, il a agi. Qu'est-ce qu'il a fait ? On en a parlé ce matin. Eh bien, il a commencé à prier. Et sa prière, elle commence au verset 15, avec un petit mot. Lorsqu'il dit « Je trahirai la race de tes enfants ». Ici, à partir du verset 15, Asaph se met à parler à Dieu. Ce qui n'était pas le cas avant, il s'examinait. À partir du verset 15, il commence à parler à Dieu. Il commence à prier. Et c'est à partir de ce verset 15 qu'on pourrait qualifier de verset pivot. C'est ce verset 15 qui va faire la transition entre la première partie, une vision sombre, déformée, désespérante de la réalité, et la deuxième partie, une vision éclairée par Dieu, suite à la prière du psalmiste. Et à partir de ce verset 15, on voit une prière qui va montrer un changement radical d'attitude et de façon de voir les choses chez Asaph. Comme quoi prier ? Eh bien, non seulement ça change les autres, On a prié, on a intercédé, n'est-ce pas, ce matin pour les autres. Mais lorsque nous prions, les premières personnes qui sont changées, c'est nous-mêmes. Lorsque nous prions, Dieu nous change. Il commence par nous changer. Il change notre façon de voir qui ? Les autres ? Il nous change aussi notre façon de nous voir nous-mêmes, nous éclaire. Et bien sûr, il nous éclaire aussi sur lui, sur qui il est. Il a vu Dieu autrement. Il s'est vu autrement, il a vu les autres autrement. Ça sera mon deuxième point, une juste vision de la réalité éclairée à la lumière de Dieu. Il s'est mis à prier, donc à partir de ce verset 15. Et en présence de Dieu, eh bien, il a réfléchi, il a prié, et il a compris. Il a compris, regardez ce qu'il dit au verset 17. Pendant sa prière, hein, voici ce qu'il dit, il a compris le sort final des méchants, verset 17. Il a compris que leur fin sera soudaine, verset 19. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits. Asaph disait qu'il s'en est fallu d'un rien que ses pas ne glissent, verset 2. Eh bien, ce n'est pas lui qui a glissé. Non. Regardez le verset 18. Dieu place les méchants sur des voies glissantes. Dieu l'a gardé. Alors, les méchants. Qui ? C'est qui les méchants ? C'est qui ? On peut se poser la question, c'est qui les méchants ? Ce ne sont pas simplement des pécheurs que nous sommes tous. Nous sommes tous pécheurs. Non, c'est plus que cela ici, les méchants dont il s'agit. Les méchants sont véritablement méchants dans ce passage, dans le sens qu'ils se moquent de Dieu. Ils se moquent de Dieu. Regardez ce qu'ils ont osé dire au verset 11. Comment, regardez ce qu'ils disent, ce que Asaph répète qu'ils se disent, verset 11. Comment Dieu connaîtrait-il ? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut ? Oser appeler Dieu le Très-Haut et prétendre qu'il ne sait pas, n'est-ce pas se moquer de lui et le rejeter ouvertement ? Il y a Dieu, il y a les méchants. Est-ce que vous avez déjà essayé de prendre deux aimants ? Alors vous savez, un aimant, il y a un pôle plus et un pôle moins. Vous prenez deux aimants et vous essayez de les rapprocher par leur pôle identique, le moins face au moins ou le plus avec le plus. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se repousser mutuellement. Ils vont se repousser. Eh bien, ceux qui refusent délibérément de croire en Dieu veulent se faire eux-mêmes Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils s'éloignent de Dieu. Et Dieu s'éloigne d'eux, comme deux aimants le feraient, avec leur pôle identique. Et ça, c'est la route vers l'enfer. Et regardons les versets 27 et les versets 20. Le verset 27, « Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. » Et le verset 20, « Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. » C'est ce qui se passe. Dieu s'éloigne de ceux qui le rejettent ouvertement, qui se moquent de lui. C'est de rentrer dans la présence de Dieu, dans la prière, qui va nous donner la force de résister à la tentation de rendre le mal pour le mal. C'est de rentrer dans la présence de Dieu, qui va nous donner la force de ne pas rendre le mal pour le mal, ce quoi a été tenté Asaph. Je crois que ça nous arrive aussi. La plus grande force, ce n'est pas de montrer ses muscles face à quelqu'un de plus musclé que vous. C'est ce que font les nations en montrant leur armée. Ils font étalage de leurs armes. Non, la plus grande force, ce n'est pas ça. La plus grande force, ce n'est pas non plus de surenchérir en mauvaises paroles face à quelqu'un qui vous insulte. La plus grande force, c'est de se maîtriser. La maîtrise de soi, elle peut passer pour une lâcheté pour certains, mais c'est vu du côté païen, mais c'est la plus grande force que Dieu met à notre disposition. Vu avec les lunettes de Dieu, c'est la plus grande force que Dieu nous donne, la maîtrise de soi, parce qu'elle est le fruit de l'esprit en nous. Galates 5, verset 22. Lorsque nous prions, Dieu nous donne des lunettes où nous voyons les autres, nous-mêmes et Dieu de façon juste. Des fois, c'est dur ce passage où Jésus nous dit, si on vous frappe sur une joue, tendez l'autre joue. Mais est-ce que ça veut dire que c'est prendre plaisir à subir le mal, non ? Tendre l'autre joue, c'est pas supporter passivement le mal sans aucun espoir. Tendre l'autre joue, c'est la démonstration qu'on compte sur Dieu pour nous défendre. Nous avons une espérance. Lorsque nous prions, Dieu nous donne des lunettes spirituelles qui nous font comprendre non seulement le sort final des méchants, mais elles vont aussi nous éclairer sur nous-mêmes, nous faire voir tel que nous sommes. Et c'est ce qui s'est passé avec Asaph. Asaph, lorsqu'il s'est approché de Dieu, lorsqu'il a prié, il s'est vu lui-même comment il était. Il a vu la nature de ses propres sentiments. Il s'est rendu compte que ses propres pensées étaient mauvaises. Regardez ce qu'il dit de lui. Il dit lui-même qu'il était jaloux des insensés, verset 3. Il les enviait. Il était jaloux, il se disait stupide et sans intelligence, verset 22. Avant qu'il se tourne vers Dieu. En fait, c'était son propre péché qui le faisait se sentir comme ça face à l'injustice. Et Asaph a compris cela quand il a réfléchi et prié et qu'il a été éclairé par le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu qui l'a transformé. Cette présence qui nous est ouverte. Comment ? Pourquoi cette présence nous est-elle ouverte ? Regardez ce que dit Asaph au verset 14. Asaph se sentait frappé, châtié, verset 14, et il se sentait même percé dans ses reins, verset 21. Eh bien, quelqu'un a accepté d'être frappé, d'être châtié, d'être percé à notre place et à la place d'Asaph. C'est le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est laissé clouer sur une croix, qui a pris non seulement le châtiment des méchants, non seulement le châtiment d'Asaph, mais aussi le nôtre, que nous méritons tous devant la sainteté et la justice de Dieu. L'accès à la présence de Dieu nous est ouverte, la séparation est enlevée grâce au sang de Jésus qui a coulé pour nous. Asaph sentait que son cœur s'aigrissait, verset 21. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir aigri ? Eh bien, Jésus, il a connu l'amertume de la mort pour que nous ne soyons plus aigris si nous allons à lui. Jésus donc ne nous offre pas simplement le pardon de nos péchés, mais beaucoup plus que cela, Jésus nous offre l'accès au trône de Dieu, à la présence de Dieu, à toutes les grâces de Dieu. Nous y avons accès, la porte est ouverte. Qu'est-ce que nous en faisons ? Qu'est-ce que nous en faisons ? Est-ce que comme Asaph, nous approcher de Dieu est notre plus grand bien ? Je reprends les deux aimants. Cette fois, on entourne un, le nôtre, il y a le plus, il y a le moins, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont s'attirer mutuellement, et c'est l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 8, qui nous dit une promesse de Dieu. Si nous nous approchons de Dieu, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. C'est une promesse. Alors, rentrer dans la présence de Dieu par la prière, par la lecture de sa parole, eh bien, va nous aider à ne pas nous arrêter à ce que nous voyons, mais à voir à plus long terme la réalité terrestre dans la perspective de la réalité céleste. C'est quoi cette perspective ? Eh bien, c'est que quelles que soient nos difficultés du moment, quelles que soient nos frustrations, quels que soient nos échecs, Dieu a promis qu'il terminera ce qu'il a commencé en nous. Et je vous relis Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, raison de plus pour ne plus attendre, pour nous approcher de Dieu. Que ça aille bien dans votre vie ou que ça aille mal, on peut s'approcher de Dieu. C'est ce qu'il veut. Quand on a un différend avec quelqu'un, que ce soit le conjoint, que ce soit les enfants, que ce soit le patron, que ce soit le voisin, nous pouvons nous approcher de Dieu immédiatement. Non pas pour trouver une solution là, comme ça, mais juste pour être rentrer dans la présence de Dieu et être bien avec lui. Pour que nous puissions dire comme Asaph, verset 25, « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Et verset 26, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Ne perdons pas de vue notre héritage au ciel. En regardant trop ici-bas sur la terre, regardons à Dieu, ayons les yeux fixés sur Jésus. Amen, je vais prier. Amen, Seigneur, merci de se rappelle, Seigneur. Oui, Seigneur, quand on lit ta parole, on se voit tel qu'on est, Seigneur. Mais merci, parce que tu ne veux pas nous laisser tel que nous sommes. Tu nous accueilles tel que nous sommes, et Seigneur, tu nous changes. Seigneur, merci, parce que Asaph, il a vu en lui-même, il a vu comment il était, et parce que tu l'as éclairé, parce qu'il est venu à toi. Seigneur, merci, parce que nous pouvons nous rappeler, Seigneur, combien c'est vital de te prier, de t'adorer, de te remettre à ta juste place, c'est-à-dire sur le trône de notre vie. Seigneur, aussi de confesser nos péchés, aussi d'intercéder pour les autres, de te remercier, bien sûr. Seigneur, que nous vivions chacun pour notre part les bienfaits de nous approcher de Dieu, que tu sois notre plus grand bien, Seigneur, et que nous te voyons avec les yeux de ton esprit, Seigneur, éclairé par ton esprit, Seigneur, que nous te voyons. Que nous voyons les situations que nous traversons, qui sont parfois pénibles, difficiles, où on ne voit pas d'issue humainement parlant, mais où toi, eh bien, nous nous rappelons que rien n'est trop grand pour toi. Alors Seigneur, que nous apprenions de nos souffrances, de nos difficultés, et que Seigneur, nous goûtions à ta consolation, à ta grâce, Seigneur, en Jésus-Christ. Merci encore, merci pour toute joie que tu nous donnes en lui, même dans ce monde qui est tellement déchu et qui devient de plus en plus malade, de plus en plus mauvais. Mais tu es le même et tu termineras ce que tu as commencé en nous. Et ça, Seigneur, c'est uniquement par la foi en toi, Seigneur, qu'on peut le croire. Pas en comptant sur nos propres forces, mais en comptant sur toi. Merci, Père. Garde-nous ton Église, que ce soit ici à Figeac, que ce soit à Gramat, que ce soit à Nice, que ce soit à Toulouse. Seigneur, garde-nous en toi. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.